La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et Elisabeth Assayag. Hier soir, Europe 1 a remis lors d'une très belle soirée les trophées de l'avenir aux entrepreneurs qui font changer le monde, Raphaël. Oui. Et ils sont là, tous les lauréats, à vos côtés aujourd'hui.
Et vous savez, Anissa, c'est à tous les niveaux que ça se passe. Hein. Chacun peut agir. Et s'il y a un échelon où les choses peuvent aussi être impulsées, c'est évidemment celui des collectivités. Pour remettre ce trophée des collectivités locales, vous, Elisabeth oui. Assayag, et François Barouin, le président de l'Association des maires de France.
Qui est le gagnant de cette catégorie collectivité locale ?
Le trophée des collectivités locales est décerné à Sauve Life.
J'invite Lionel Lameau à nous rejoindre sur scène pour recevoir.
Et il est avec nous, Lionel Lameau, aujourd'hui. Bonjour Lionel.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir avec nous. Et de vous avoir remis ce trophée des collectivités locales. Alors, il faut que j'explique, parce que Sauve Life, c'est quelque chose qui émane du SAMU. C'est pour ça que vous étiez dans cette catégorie des collectivités locales.
Oui, en fait, je suis médecin au SAMU. Et oui, en fait, on a créé une association à côté pour permettre ce projet-là. Et effectivement, c'est une constatation de professionnels d'un besoin qu'on avait aujourd'hui pour lutter contre un fléau qui est l'arrêt cardiaque.
L'arrêt cardiaque, et vous avez eu la bonne idée finalement d'aller demander aux citoyens d'être acteurs, d'être citoyens sauveteurs. C'est ça le principe de Sauve Life.
C'est exactement ça. En fait, on ne peut pas s'en passer du citoyen sauveteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. On va mettre professionnel, même si on est super organisé, que ça se passe très bien avec les pompiers et le SAMU, c'est 13 minutes en moyenne. Donc vous comprenez bien que si pas nous tous ici, hein, autour de cette table, dans le public, on n'agit pas, eh ben, ça ne sert à rien ce qu'on va faire nous derrière. Et donc en fait, l'idée a été de reprendre le film à l'envers. C'est-à-dire que moi, ma carrière, j'ai fait beaucoup de choses sur l'arrêt cardiaque, des choses très compliquées. Mais si personne n'avait rien fait avant, ça ne servait à rien. Mmh. Et quand on arrivait, la plupart du temps, des gens disaient bah, « si j'avais su, j'aurais peut-être fait quelque chose ». Et après, on est revenu un peu en arrière en disant bah, « on a tous un smartphone, bah, on va s'en servir quoi ».
Donc, le smartphone nous permet d'être géolocalisé et on nous dit « vous êtes à 500 mètres, à 300 mètres, à 800 mètres d'une personne qui vient de faire un arrêt et vous allez nous guider ».
Exactement. En fait, on télécharge Sauve Life, c'est gratuit dans vos smartphones. Nous, au SAMU ou les pompiers, quand ils reçoivent un appel pour un arrêt cardiaque, on envoie les secours. Et puis, on va envoyer un SMS, un texto, à tous ceux qui sont à 10 minutes à pied. Je crois qu'autour de cette table, certains ont déjà reçu ce fameux texto.
Oui, c'est le cas d'Elisabeth.
Et après, on vous dit si vous êtes disponible. Si vous êtes disponible, eh ben, vous validez. On vous donne l'adresse et vous guide par GPS. Et le SAMU va vous suivre en temps réel et va pouvoir vous guider.
Elisabeth.
Mais ouais, moi ça m'est arrivé il y a un mois environ. Je reçois une notification. Un incident a lieu à 480 mètres de là où vous vous trouvez. Alors franchement, on n'est pas fiers parce qu'on se dit mince, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais vous m'avez rassurée hier en me disant que même en tant que professionnel, vous avez un petit moment de doute, hein, de est-ce que je vais y réussir ? Donc je suis allée sur les lieux. Bon. Là où il s'avère qu'il y avait déjà les secours sur place, mais même si les secours n'étaient pas là, et c'est là la force de Sauve Life, c'est que moi qui ne suis pas formée, je ne suis pas médecin, je ne suis pas urgentiste, le SAMU aurait pu me guider dans le massage cardiaque ou dans l'utilisation d'un défibrillateur en attendant l'arrivée des secours. Et c'est là où vous êtes formidable.
Alexandre Mars.
Je pense que tu as dit ce qui est important, télécharger cette application. C'est une application gratuite, comme tu le dis, qui est extrêmement facilement utilisable et qui n'est pas uniquement pour des sauveteurs, pour des urgentistes, pour des médecins. Ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est que c'est le SAMU, encore une fois. Merci le SAMU. Je pense que ici dans la salle et autour de la table, il y a au moins une fois dans notre vie où on aura eu accès au SAMU ou grâce au SAMU, peut-être qu'on a eu. Donc merci encore pour le travail que vous faites. Et de voir qu'il y a une émanation, que quelqu'un qui vient, qui a fait passer sa vie, a pris son temps pour justement proposer quelque chose de différent, c'est quand même assez incroyable. Donc merci pour ça. Très facile de télécharger l'application. Et puis encore une fois, c'est être un activiste. Un activiste, c'est aussi ça. C'est à son petit niveau, aider. Et même quand on n'a pas forcément toutes les formations. Donc merci.
Lionel, merci ce trophée, il est important parce qu'il va aussi peut-être, en tout cas on l'espère, faire bouger certaines lignes. Il y a des difficultés parfois.
Je pense comme tout entrepreneur autour de cette table, il y a énormément de difficultés. Je veux dire, quand on a lancé l'application, on nous a dit vous êtes des fous de vouloir faire de la médecine par le citoyen. On a eu plein de freins, donc on a essayé de se battre, on s'est battu là-dessus. Et aujourd'hui, ce trophée va nous apporter plusieurs choses. Un, effectivement, c'est une équipe qui s'est battue et donc pour tout le monde, c'est très important. Le deuxième point, c'est une médiatisation, comme aujourd'hui, donc des téléchargements. Donc plus il y aura de téléchargements, plus il y aura un citoyen à proximité et donc un massage cardiaque immédiat. Comme je le disais, depuis le 1er janvier, aujourd'hui, il y a 10 cœurs qui sont repartis avec la participation de Sauve Life. C'est des vies sauvées.
300 000 sauveteurs hein, déjà en
350,
relais.
350.
Ouais. Et ça monte tous les jours.
Bah oui, c'est 400 000 ce soir. Non, mais il faut y aller. Il faut télécharger. L'autre point, on est une association loi 1901, donc on cherche des fonds, hein, toujours. Et des mécènes, c'est un point qui est fondamental. Et ce trophée va nous aider à ça. Et le troisième point, c'est qu'on a été contacté par d'autres pays. Et là, on va devoir changer un peu le modèle. On ne sera plus dans un système probablement d'association pour ça, parce que ce n'est pas possible techniquement. Et donc, on va devoir aussi lever des fonds, comme on en parlait, parce qu'on a nos voisins, et puis même les États-Unis et le Canada qui nous demandent d'aller s'exporter.
Question Twitter, Anissa.
Oui, on a Pierre sur Twitter qui demande s'il faut être majeur pour télécharger Save Life, parce qu'il a 16 ans et il aimerait bien la télécharger.
Eh bien non, puisqu'on a décidé de le faire à partir de 15 ans. Pourquoi on a pris cet axe-là ? C'est qu'on dit que c'est une application citoyenne. Mmh. On apprend à nos enfants à être des citoyens à l'école. Et donc, pour moi, à partir de 15 ans, c'est l'âge où, en principe, à l'école, ils ont le diplôme de secourisme. Donc, on s'était dit que c'était le bon âge. Et surtout, ils peuvent se déplacer seuls dans la rue sans risque, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un accident avec un enfant. Mmh. Donc, à partir de 15 ans, avec une autorisation parentale, ils peuvent s'inscrire. L'autre point, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de secourisme. C'est la question qu'on a souvent. Tout le monde, vraiment, peut s'inscrire, formé ou non. Inscrivez-vous sur l'application.
Et bientôt. Vous me connaissez, hein. Vous relancer sur le scooter. Non, mais parce que c'est important, faire venir encore plus vite des gens sur place pour réduire les délais et sauver davantage de vies. Donc, il y a ce projet qui, pour l'instant, est dans les tuyaux, n'est pas encore sorti, mais ça va venir.
Il va venir. L'idée, hein, c'est que le deuxième geste qui sauve, il y a deux gestes qui sauvent, c'est masser et défibriller. Il y a beaucoup de défibrillateurs dans la rue, on les enregistre, hein, nous, dans l'application aussi. C'est encore d'en faire venir un plus vite avec un sauveteur dessus, le plus rapidement possible. Et donc, on se sert du scooter qui peut amener ce défibrillateur le plus vite possible. Aujourd'hui, effectivement, on a eu les dons et compagnie pour avoir ces scooters qui sont dans un garage aujourd'hui. C'est juste une autorisation légale qui nous manque.
De qui ?
Nous voulons des noms.
C'est pas prévu dans la loi, en fait. Donc, techniquement, quand c'est pas prévu dans la loi, vous avez pas le droit. Il y a un vide juridique. Et donc, en fait, les institutions disent, bah oui, mais s'il y a un accident, qu'est-ce qui couvre puisqu'on n'y a pas le droit ?
Mais on a le droit de prendre des scooters en libre accès, puisqu'il y a des scooters électriques qui sont en libre accès.
Oui, mais là, c'est pas tout à fait pareil. Ils sont mandatés par le SAMU. Donc, finalement, il y a une responsabilité. Donc, c'est pas si simple que ça.
Il y a des lourdeurs
aujourd'hui. Ça fait 6 mois qu'on se bat sur cette affaire-là. Mais on va y arriver, j'ai pas de doute.
On va gagner, j'en suis sûre aussi. Puisqu'on parlait de développement, juste une question, Alexandre, pour Aude et Plume. Hein ?
Oui, Aude, parce qu'on parlait de développement, un peu comme tu venais de le dire par rapport à ta levée de fonds potentielle, toi aussi. Tu vas certainement rechercher des fonds pour un développement national, international.
Exactement, raconte-nous. En fait, aujourd'hui, on a la chance, comme on développe ce que tu disais tout à l'heure, à la fois une innovation donc d'usage, mais aussi une innovation technologique qui est très forte. On a la chance d'ouvrir énormément de pays, donc, notamment en Afrique. Donc, c'est très intéressant. Il va falloir porter ce développement à l'international. Et effectivement...
Parle-nous de nombres, alors.
Donc des combien sous, combien alors. On a,
il y a des choses concrètes, c'est qu'on a la chance d'avoir trouvé un business model et donc aujourd'hui, on a des clients. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. On a la chance de pouvoir financer en partie notre développement. Mais effectivement, l'accélération passe évidemment par sans doute une levée de fonds. Et bien sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter.
Et ben voilà.
Ça sert aussi à ça.
Voilà. On reste ensemble et on va découvrir d'ici quelques minutes les autres lauréats de ces trophées de l'Avenir Europe
1. Il est 12h58.
Europe 1. Environnement, solidarité, santé, mobilité et votre coup de cœur, celui des auditeurs. C'est d'ici quelques minutes sur Europe 1. À tout de suite.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge.
Europe 1, midi 14h, La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans La France Bouge. Ici, vous le savez, on aime vous faire découvrir des talents, des gens qui font changer les choses, qui font changer la France à petite ou à grande échelle. Et hier soir, eh bien, ils étaient avec nous pour la soirée des trophées de l'Avenir Europe 1, 5e édition, pour récompenser ceux qui agissent, ceux qui croient en leurs rêves, qui les mettent en œuvre pour construire d'autres modèles. Si vous étiez avec nous dès midi et demi, vous avez d'ores et déjà découvert Frémalin Déstockage pour l'alimentation, Plume pour l'éducation et Save Life pour les collectivités locales. Place maintenant à l'environnement. Et pour remettre hier soir ce trophée environnement, Fanny Agostini et Thomas de Richebourg. Fanny, je vous laisse ouvrir l'enveloppe pour nous dévoiler le nom du lauréat dans cette catégorie environnement.
Lauréat, catégorie trophée de l'environnement, décerné à...
Citerns.
J'appelle à mes côtés Vincent Tournery. Et il est avec nous, Vincent Tournery, bien sûr, bonjour.
Bonjour Raphaël.
On est ravis de vous recevoir, Vincent.
Je vous ai dit hier soir, vous avez fait un truc de dingue. Parce que Seaturns, quand on voit ça de l'extérieur, ça nous paraît totalement fou. Ce sont des énormes cylindres qu'on va venir poser sur l'eau et qui vont en fait générer de l'électricité grâce au mouvement des vagues, si je résume.
Tout à fait, oui.
Et pas seulement. Parce que vous dites on produit de l'énergie, mais pas que.
Alors on peut faire on récupère l'énergie des vagues et à partir de cette énergie, on peut faire de l'électricité ou on peut faire aussi de l'eau douce en dessalant l'eau de mer. Voilà.
Alors comment vous faites pour arriver à faire ce tour de force?
Alors c'est un... Donc,
deux en un.
Voilà. Oui, alors ça vient de la technologie qui permet, on a une turbine qui tourne et qui peut se coupler soit à une génératrice pour faire l'électricité ou soit à une pompe pour faire du dessalement d'eau de mer.
Comment vous est venue l'idée? En regardant tout simplement le mouvement des vagues?
Je suis un passionné par la mer.
Oui.
Donc je fais la voile, j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines aussi. Donc il y a en gros une dizaine d'années, j'avais envie d'être un peu, si on peut dire, utile pour la planète. Et donc les vagues, tout de suite, ça m'est venu à l'esprit d'essayer de récupérer cette énergie. Voilà.
Et Vincent, tu peux nous dire où est basée la structure, donc elle est pas.
Alors on est basé à Bordeaux.
Bordeaux. Voilà. Donc là encore, la question était, je savais où tu étais, mais c'est important de voir que tu es resté à Bordeaux, tu développes la structure à Bordeaux. La phase de commercialisation, elle est prévue dans 6 mois, dans 2 ans.
Alors il y a une phase de recherche développement encore qui reste à faire. C'est un projet industriel qui est lourd. Il y a des phases d'étape de simulation, d'essais en bassin à réaliser. En gros, on vise une pré-commercialisation en fin 2021. Voilà.
Parce que le prototypage, ça y est, est terminé, hein, je crois.
Alors,
il est en
on
cours.
Fait des essais en bassin à des échelles réduites. On va terminer la fin mi-mars la partie structure, d'essai global du système de flotteur avec sa ligne d'ancrage. Par la suite, on va s'attaquer aux composants, l'ancrage, la turbine, sur lequel on va faire pareil de la simulation et des essais. Après, on va tout assembler et on va déboucher sur un prototype, fin 21.
Tu parlais d'industrialisation, les financements justement, parce que c'est des financements importants.
Parlons des financements, c'est vraiment le nerf de la guerre. On est accompagné par la région Aquitaine, on est accompagné par la BPI. Et là... Bon, Alexandre, tu me parles de ce problème. On est en pleine levée de fonds, donc je profite de...
Mais c'est le moment. C'est pas un problème. Regardez, on est là.
Ce ne sont que des solutions.
Voilà, donc on a plusieurs levées de fonds à mener. On en a là actuellement sur la phase dont je parlais
Quel montant vous recherchez aujourd'hui?
Alors là, on est sur un montant de 400 000 euros.
D'accord.
Voilà, de fonds privés.
Pour que les gens comprennent bien, je ne sais pas s'ils imaginent ce que c'est. Hein, c'est une série de gros cylindres qui sont posés un petit peu au large, reliés par des câbles entre eux.
Tout à fait,
et
oui.
Arrimés en fait, par un système aussi assez innovant.
Pour qu'ils
restent fixes.
Voilà, c'est ce système d'ancrage sur lequel sont posés les flotteurs qui crée ce mouvement de rotation.
Elle va être utilisée dans quoi, cette énergie?
Alors l'énergie, on vise dans un premier temps les marchés de niche, ce qu'on appelle les marchés niche, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas reliées à un réseau électrique ou d'eau potable. Donc ça peut être on vise dans un premier temps des resorts, c'est-à-dire des zones hôtelières qui ont des gros besoins en électricité et en eau douce. Et après, lorsqu'on aura passé cette phase-là, on pourra s'attaquer au marché de production à la fois d'eau et d'électricité. Voilà.
Ce trophée, Vincent, qu'est-ce qu'il va apporter
aujourd'hui?
Ce trophée,
c'est une grande fierté. Hein. C'est une crédibilité supplémentaire par rapport à des gens qui peuvent nous écouter et nous entendre parler du projet.
Donc,
et comme on disait tout à l'heure, c'est un moyen de lever des fonds, de se faire connaître et d'intéresser des investisseurs. Voilà.
Il faut rêver en grand.
Oui, tout à fait.
C'est important.
Oui.
Ouais, ça fait 3 ans, hein, 3-4 ans que vous êtes sur ce projet.
Oui, bien sûr. Là, avec une progression dans le projet.
N'imaginons pas que l'entrepreneuriat, c'est facile.
Non.
C'est dur, c'est long, c'est périlleux. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques gagnants et vous êtes là tous aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est dur et qu'est-ce qu'on doit un peu souffrir aussi pour arriver à avoir ces merveilleuses histoires que vous nous racontez encore aujourd'hui. Merci encore.
Bon. Merci.
On reste ensemble et on continue à découvrir nos lauréats 2020 des Trophées de l'Avenir Europe 1.
Il est 13h17.
Prochain invité, le gagnant du trophée de la solidarité. Un véritable moment d'émotion hier soir lors de la cérémonie. A tout de suite.
Le monde change, la France bouge sur Europe 1 grâce à de belles initiatives. Hier soir a eu lieu la cérémonie des trophées de l'avenir Europe 1 et nous découvrons tous les lauréats. Ils sont vos invités jusqu'à 14h, Raphaël Duchemin.
Regardez, nous sommes en public aujourd'hui. C'est la plus belle preuve que faire ensemble, faire avec vous, eh bien, c'est important aujourd'hui, faire aussi pour les nouvelles générations, penser finalement nous avant de penser je, penser inclusion aussi. Ce trophée de la solidarité, il était remis hier soir par Christian Courtin-Clarins et Elisa Tovati.
Le trophée de la solidarité est décerné à...
Café Joyeux.
Grand sourire sur le visage ici en studio de Yann Bucaille-Lanvoisac. Bonjour Yann.
Bonjour.
On est ravis pour vous. Parce que l'histoire des Cafés Joyeux, elle est formidable. C'est d'abord une aventure humaine, la vôtre, celle de votre épouse, qui décide d'embarquer des jeunes pour les emmener en bateau, faire des promenades. Et vous avez le sentiment que vous faites déjà beaucoup de choses pour eux. Sauf qu'un jeune Théo va vous interpeller et vous dire « Dis donc, capitaine, tu veux pas me trouver un boulot ? Moi, c'est de ça que j'ai besoin. » Et c'est comme ça que démarre l'aventure.
Oui, oui, c'est là le point de départ des Cafés Joyeux. Et vous l'avez très, très bien illustré hier en parlant de frustration. J'étais touché par le mot que vous aviez choisi lors de cette soirée incroyable. Oui, c'est une vraie frustration quand on se sent démuni. On se sent incapable, on se sent finalement même bête. Je me suis trouvé un peu idiot. Et effectivement, étonnamment, les personnes avec une forme de différence, une forme de fragilité, quelque part, détiennent un pouvoir peut-être surnaturel ou supérieur, je ne sais pas. Elles sont capables de toucher en nous précisément quelque chose que personne ne touche. En tout cas, ce Théo m'a touché au cœur en me disant mais finalement tu pourrais m'aider. Et tu ne le fais pas. Et tu le fais autrement. Et il m'a fait prendre conscience que les personnes avec handicap mental peuvent elles-mêmes se saisir de la question et devenir totalement autonomes et être maîtres de leur propre destin.
Oui, parce que quand on pousse la porte d'un café joyeux, on gomme les différences, on les oublie.
Oui. L'idée, c'est vraiment de montrer que nos équipiers joyeux sont capables de travailler dans un milieu ordinaire, dans une entreprise comme les autres, avec un café qui est beau. Chez Joyeux, au Café Joyeux, on dit c'est beau, c'est bon. Et on soigne beaucoup la décoration. On est vraiment très, très attaché à une restauration de qualité, puisque tout est produit sur place. Ce sont des produits frais, de saison. Il y a une offre vegan, une offre veggie, tout pour plaire à toutes les générations. Et surtout, c'est en cœur de ville. L'idée, c'est vraiment le cœur de la cité. Parce que
les restaurants... Vous ne les mettez pas en dehors des périphéries.
Exactement. Tout à fait, vous avez raison. C'est-à-dire que les restaurants en application existent depuis très longtemps, mais souvent ont été trop mis à l'écart. Et quand on sait qu'en France, 700 000 personnes sont avec autisme, à peu près 70 000 personnes sont trisomiques, et parmi ces personnes-là, la plupart ne travaillent pas. Ceux qui travaillent dans des établissements spécialisés, ce qu'on appelle le milieu protégé, et effectivement en périphérie.
Alexandre Mars, le président du jury.
Oui, ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est qu'on parle d'inclusion. Tous les jours, on parle d'inclusion, on parle de ça depuis des années et des années. Là, on a un projet qui met l'inclusion au centre de son système. Et bravo pour ça. Et c'est vrai que pour les gens qui habitent Paris aujourd'hui... Il faudra que tu es à Bordeaux, mais non, c'est celui qui s'ouvre, le prochain s'ouvre
à Bordeaux. Oui.
À Bordeaux, c'est ça.
Lille, Lyon, Tours, Versailles.
Et c'est important. Et parce que, allez-y évidemment, parce que ça, vous allez faire le bien, mais allez-y aussi parce que c'est ça l'échange. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Et c'est un monde où le partage, où justement cette capacité à comprendre que l'autre est différent. Mais c'est beau la différence. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des robots. Et c'est ça qu'on trouve exceptionnel dans ton projet, Yann. C'est que. Il faut l'accepter et bravo pour ça. Et la question que j'ai pour toi, c'est justement qu'est-ce que tu as après les 4 restaurants ? Est-ce que tu veux en faire 25 ? Est-ce que tu veux justement laisser les autres le faire ? Est-ce que tu as besoin que ça s'appelle joyeux à chaque fois ? Quel est ton plan d'attaque sur ces prochains mois ?
Alors, Étonnamment, moi qui suis multi-entrepreneur, de cette activité qui prend plus de 100% de mon temps aujourd'hui, j'ai pas fait de business plan. Ça va te surprendre parce que, quelque part, je dis toujours, ce projet ne m'appartient pas, c'est le projet des équipiers joyeux. Au départ, on a monté un restaurant et puis on a senti qu'il y a une véritable attente. On a reçu plus de 300 demandes d'ouverture de café joyeux, principalement des parents, mais aussi des associations, des municipalités, des entrepreneurs qui nous disent « je veux un café joyeux dans ma ville, j'en veux un dans ma rue ».
Ou dans mon entreprise ?
Certains dans leur entreprise. Parce que je pense que le monde est prêt, la société est prête à accepter la différence, comme tu le dis. Et un jour, j'ai un monsieur qui est venu me voir dans un café et il m'a dit « je peux vous faire une confidence ?» Je lui dis « avec plaisir ». Il me dit « je suis venu il y a 3 jours, j'ai vu cette belle vitrine, toute neuve, je me rapproche, je vois ces beaux produits en vitrine. Alors je pousse la porte, je sens une odeur qui se dégage, ça sentait bon. Et là, j'ai eu peur. J'ai vu tous ces visages différents et je suis parti. » Je lui dis « mais vous avez eu peur ? Et vous êtes parti ?» Il me dit « oui, mais vous revenez ?» Il me dit « oui, ça fait 3 jours, j'en dors pas. Je ne pense qu'à ça. »
Mais ça a fait le même effet que vous, en fait, quand il vous a dit « tu peux faire quelque chose
exactement,
pour moi. »
Exactement. Ces personnes nous transforment. Et en fait, on a peur de la différence. Et alors l'idée de dire, on ne va pas changer le monde, on ne va pas répondre à ces 700 000 personnes autistes qui peut-être cherchent un travail.
On le change le monde avec des petites choses ou des plus grandes choses.
Exactement.
On le change.
Exactement. Et peut-être que grâce au trophée européen de l'avenir, on arrivera à faire une chaîne de restauration, en tout cas une famille de restaurants très 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 développée qui permettra peut-être de répondre partiellement à ce sujet.
Tu ne l'as pas fait au départ le business plan, mais est-ce que maintenant, comme tu vois le succès et surtout l'impact que ça a pour ces gens qui ont besoin de ça. Est-ce que tu te mets maintenant à faire le business plan ou pas ?
Oui, alors là, on est très fiers parce qu'on arrive à l'équilibre financier au bout du deuxième ou troisième exercice dans un café joyeux.
Bravo.
Maintenant, on a un autre regard aussi sur la performance. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise qui peut dégager des capex suffisants pour pouvoir investir dans l'achat des fonds de commerce. Quand on voit les prix de l'immobilier aujourd'hui, il faut beaucoup de sous.
Surtout pour pouvoir rester en ville, telle est votre promesse.
Pour rester en vie, exactement. Donc, ça va dépendre aussi des soutiens financiers qu'on va pouvoir obtenir. Mais oui, il faut de l'ambition pour les gens fragiles et on a beaucoup d'ambition.
Bravo, on reste ensemble et on continue à découvrir les lauréats des trophées de l'avenir Europe 1.
Il est 13h28.
Prochain trophée que l'on découvre ensemble, c'est celui de la santé. A tout de suite.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France bouge avec Raphaël Duchemin et Elisabeth Assayag et une émission spéciale en public. Aujourd'hui, en direct du studio Merlin jusqu'à 14h, vous recevez, Raphaël, tous ceux qui, hier soir, ont reçu un prix lors de la très belle cérémonie des Trophées de l'Avenir Europe 1.
Oui, cérémonie et trophée que nous avons remis avec vous, Alexandre Mars, qui étiez président de ce jury, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui en tant que coach dans cette émission. Une des préoccupations forcément que nous avons tous, c'est de prendre soin de nous, de notre santé. C'est vrai que beaucoup d'avancées ont été réalisées dans ce domaine, notamment en France, ce n'est pas un hasard. Pour remettre ce trophée hier soir, trophée de la santé, Laurie Choleva et Mathieu Béliard.
Le trophée de la santé est décerné à Abeille.
Mickaël Codescent, il va venir nous rejoindre. Abeille, ça s'écrit A-B-E-Y-E, je le précise, et Mickaël Codescent est avec nous. Bonjour Mickaël.
Bonjour Raphaël.
On vous applaudit Mickaël, parce que ce que vous avez fait pour changer la vie des dyslexiques est important, puisque vous leur avez créé une paire de lunettes spéciales.
Absolument, une lunette en fait, qui facilite la lecture des dyslexiques. Il faut savoir qu'en moyenne, dans chaque classe, il y a 2 enfants dyslexiques et ils en souffrent parce que ça rend la lecture très difficile et du coup l'apprentissage. Et c'est lorsqu'on est enfant, alors qu'on est au moment même où on doit apprendre le plus, eh bien, on ne s'est pas encore accommodé de ce handicap. Et donc là, eh bien, ça peut créer de l'échec scolaire, des difficultés. Ce sont des lunettes dont le fonctionnement est instantané. Vous les mettez et vous parvenez à lire. Il n'y a aucun entraînement, il n'y a aucune formation requise. Et l'effet est également universel. Ça ne dépend pas de l'âge.
Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que en fait, les yeux des dyslexiques sont presque trop parfaits. Ils ont 2 yeux parfaits. C'est ce que vous dites pour simplifier les choses. Et que finalement, vous allez venir mettre un filtre pour qu'on ne confonde plus les lettres.
Absolument. Absolument. En fait, c'est parti d'une découverte scientifique à l'université de Rennes 1 il y a maintenant quasiment 2 ans et demi, qui a montré en fait la cause de la dyslexie qui provenait des yeux trop parfaits et qui du coup pénalisait le cerveau dans sa capacité à choisir les bonnes images. Ça nous a pris 2 ans de travail avec eux pour justement mettre au point le dispositif, de mettre au point ces filtres actifs qui, eh bien, rétablissent la capacité du cerveau à choisir la bonne image.
C'est vrai que c'est bluffant et ça nous avait bluffé, Alexandre Mars.
Ça nous avait évidemment bluffé. On s'est posé une question à ce moment-là, mais comment on peut développer ça si facilement qu'en 2 ans? Et ce qu'on a en lisant ta candidature, Michael, c'est que tu étais aussi adossé à un grand groupe qui s'appelle le groupe Atoll. Et ça nous avait intéressé. D'ailleurs, c'est l'inverse de dire, justement, ça ne nous intéresse pas, ça nous intéresse encore plus. De voir que des grands groupes, puisque là, on parle de TI, hein, ce n'est pas les mastodontes qui sont en bourse, mais c'est des entreprises qui sont justement de taille intermédiaire, puissent comme ça t'aider, parce que tu as travaillé là-bas, et c'est une sorte d'émanation. Comment tu définis ça d'une manière dans les bons mots?
Oui, je crois que vraiment, on travaille en symbiose. En fait, disons que le mot le plus couramment utilisé, c'est qu'on est incubé. En vérité, on travaille vraiment de concert, parce que, vous voyez, par exemple, on cherche à faire des lunettes, alors pour tout ce qui est partie filtre, électronique, etc. Donc là, on a vraiment la compétence. En revanche, pour dessiner de belles lunettes qui soient non stigmatisantes, pour que l'enfant puisse la porter non seulement à la maison, mais aussi à l'école, pour dessiner donc de belles lunettes, évidemment, l'expertise opticien d'Atoll nous a été plus qu'utile, a été critique.
Elisabeth ?
Non, mais c'est bien de voir qu'un grand groupe, voilà, il y a cette intelligence de ne pas tout récupérer à lui, ce qui pourrait être aussi un réflexe. Et vous, d'avoir cette intelligence de vous dire, on va récupérer chez eux ce qu'eux savent faire et nous, on ne sait pas le faire. Et vous apportez votre expertise pour pouvoir résoudre ces difficultés en dyslexie. Moi, je trouve que c'est une formidable idée.
Anissa, nous avons une question sur Twitter.
Oui, avec le hashtag Europe 1, car vous le savez, jusqu'à 14h, vous pouvez poser toutes vos questions au lauréat des trophées. Marie nous dit, mon fils a 21 ans. N'est-il pas trop tard pour lui pour porter ses lunettes ?
Michael Codocian.
Il est dyslexique.
Non, il n'est pas trop tard. Comme je disais, donc l'effet est universel. Donc il ne dépend pas de l'âge, par exemple. Et l'effet sera peut-être moins spectaculaire au début, en tout cas, parce que plus on grandit, plus le cerveau met en place des stratégies de compensation qui nous permettent de vivre avec ce handicap. Donc à 21 ans, il a déjà mis en place certaines stratégies, mais l'expérience a prouvé, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, par exemple à Las Vegas, nous étions au CES, un salon qui n'est ouvert qu'aux adultes, et bien nous avons eu des tas de dyslexiques qui sont venus tester la lunette et pour qui l'effet était manifeste, plus que manifeste.
Michael, la suite, c'est l'arrivée de ces lunettes, évidemment, dans le commerce, c'est
en
pour
magasin.
Bientôt, hein, ça
oui,
y est.
Oui, ah bah, c'est vrai que d'ici la fin de l'année, voilà, d'ici la fin de l'année, à l'automne, chez les opticiens Atoll. Alors, c'est vrai que ça peut paraître long, mais en vérité, à l'échelle du projet, ça va passer très, très vite. On est très occupé, on a beaucoup de demandes, évidemment. Et c'est qui nous pousse à faire non seulement du bon travail, mais à le faire de plus en plus rapidement.
Et de la part d'autres opticiens aussi, on pourra vous trouver ailleurs? Ou c'est...
Alors,
pour l'instant, ça restera que circonscrit à Atoll.
Dans un premier temps, oui, ça restera circonscrit.
Et pour nos auditrices et nos auditeurs, Alexandre, aujourd'hui, comment on pourrait être justement sur cette liste d'attente? On envoie un email, comment on fait? On va sur ton site internet?
Sur le site internet, oui.
Abeille, donc.
Exactement. Sur le site internet, il y a un formulaire qui nous permet... Qui
sorte
permet,
de en fait, précommande.
Et donc, ouais, une sorte de précommande. S'ils disent qu'ils t'ont écouté sur Europe 1, est-ce qu'ils seront un petit peu en avant?
Est-ce que les médecins, les orthophonistes, les gens qui s'occupent des personnes dyslexiques pourront recommander vos lunettes? Est-ce que ça pourra passer par ce genre de circuit-là?
Ça pourra, bien sûr. D'autant plus que là, on lance une investigation clinique formelle qui nous permettra de déposer un dossier de demande de remboursement auprès de la Haute Autorité de Santé. Et donc, l'idée, c'est prochainement, enfin rapidement, eh bien, que ce soit pris en charge par la Sécurité sociale.
On reste ensemble et on continue
avec
à
plaisir.
Découvrir les lauréats des trophées Europe 1 de l'avenir.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et demain, comment allons-nous nous déplacer? La mobilité, c'est un véritable enjeu déjà aujourd'hui, ce sera encore plus demain. Qui a su imaginer la solution qui nous a conquis? Vous le saurez dans une minute. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec une émission spéciale en public, en direct du studio Merlin ici à Europe 1. émission spéciale puisqu'hier soir avait lieu la cérémonie des trophées de l'avenir Europe 1 et tous les lauréats sont à vos côtés aujourd'hui, Raphaël.
Se déplacer, véritable enjeu, hein, couplé évidemment à celui de l'environnement, à celui aussi de la densification des centres-villes et de la multiplication des moyens de transport. Alors il faut inventer de nouveaux moyens, de nouveaux modes justement pour remettre hier soir ce trophée de la mobilité. Nathalie Lévy et Philippe Gougler.
Alors on va découvrir si vous le voulez bien tout de suite qui est le gagnant. Trophée Europe 1 de l'avenir.
Décerné à Voltaero.
Très bien.
Voltaero, Jean Botti.
Voltaero, Jean Botti qui est avec nous évidemment. Bonjour Jean.
Bonjour, bonjour.
On est ravis de vous avoir remis ce trophée.
Pardon ?
On est ravis de vous avoir remis ce trophée.
Ah ben on est ravis aussi de le recevoir.
Voltaero, c'est un projet un peu dingue. Un troisième avion qui est né dans votre esprit.
Ouais.
Parce que vous étiez chez Airbus au départ. Et puis vous avez essayé plusieurs fois de faire des projets un peu innovants. Ça n'a pas fonctionné. Mais là, ça y est. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Voltaero ?
Oui, alors avec mon associé, hein, Didier Estène, hein, avec qui on avait fait à la fois le Cri-Cri, qui était avion de voltige. On l'avait présenté en 2010. À l'époque, on était chez Airbus tous les deux. Ensuite, on a fait IFAN, qui avait traversé la Manche.
Tout électrique ?
Tout électrique, en 2015, oui, 5 ans après. Et là, on est en 2020, et on fait Voltaero.
Mais sans Airbus ?
Mais sans Airbus, là c'est Didier, moi-même et puis Marina, une autre associée. On était des Airbusiens, mais avec 50 ans d'expérience, vous voyez, à nous tous là, avec des jeunes hein, qui sont avec nous là. On a récupéré de l'équipe hein, quand Airbus avait décidé de ne pas faire l'IFAN. Et donc on a redémarré l'aventure là et on est passé de 20 kW à 60 kW et là à 600 kW. Mais c'est de l'exponentiel. Et un avion qui est en fait à la fois qui peut être tout électrique. En fonction de la distance parcourue, hybride moyen ou bien hybride avec une recharge en vol pour des vols qui sont entre 600 et 200 km. Voilà, donc c'est une famille d'avions quoi, qu'on est en train de créer modulaire.
Le Cassio, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle ?
Ouais, Cassio.
Pourquoi ?
Ouais. Vous voulez savoir ?
Oui.
Non, pas du tout. On pose la question, on ne peut pas savoir.
C'est le nom du village de mes parents. Je suis un immigré, donc j'ai immigré en France. Et c'était un petit clin d'œil à mes parents parce qu'ils adoraient la France. La France leur a donné beaucoup et moi, j'ai voulu rendre à la France. Et je trouvais que Cassio, c'était un joli nom.
Italien, c'est ça ?
Ouais, ouais. Donc c'est un petit village dans le Parmesan, voilà.
On pourra y aller en avion, donc en Voltaero à Cassio.
Ouais. On va y aller bientôt, justement, à Cassio, en avion.
Oui, alors justement, là on est en train de faire, donc on commence nos vols d'essai pour un vol qui sera plutôt confidentiel le 24 mars, mais ce sera le premier vol.
Bon, mais vous serez dedans ?
Ah non, pas moi, parce que j'ai pas
vous
le droit.
Vous avez trop peur ?
C'est Didier. Non, j'ai pas le droit du tout. C'est que c'est Didier qui est le pilote d'essai.
C'est vous, Elisabeth.
C'est mon associé.
Allons demander une surprise.
À Thomas Pesquet. Demandons à Thomas Pesquet.
Non, moi je pilote. Ce matin, vous voyez, j'étais de bonne heure, je me suis levé pour aller piloter, mais je suis pas pilote d'essai. Or, Didier, lui, peut piloter. Et on a aussi récupéré un super gars, Éric Gérard, qui était l'ancien pilote d'essai du Rafale.
Et physiquement, ils seront différents, les avions ? Vos avions à vous ?
Ah oui, vous allez voir. Enfin, alors là, le premier, c'était un vintage, ok ? Parce qu'il va avoir une. On est dû partir d'une cellule déjà certifiée. Vous savez, la certification, c'est très important dans l'aéronautique.
Ouais.
Donc, on devait partir de quelque chose d'existant et développer notre chaîne cinématique, notre le cœur de notre métier. Mais le prochain qu'on dévoilera le 24 mars.
Ça nous intrigue.
Oui, ce qui est génial avec
il
Jean.
Il maintient le suspense.
Ce qui est génial avec Jean, c'est qu'il y a une sorte d'assurance que Jean.
Inné.
Hein, et question, parce que, encore une fois, projet industriel, donc des sous qui sont nécessaires. La région, l'État, comment ça s'est passé ? Donc, région Aquitaine ?
Alors, la région Aquitaine.
Décidément.
Soutien infaillible, qui avait commencé déjà avec IFAN. Et je dois remercier Alain Rousset et ses équipes parce qu'ils ont été derrière nous dès le départ. Ça nous a permis de faire démarrer Voltaero. Et puis après, ben, il y avait des investissements, les miens, et puis des privés. L'État, pas beaucoup jusqu'à présent. Et,
Airbus, peut-être ?
Oui, Airbus, justement.
Airbus,
parce que
non,
vous avez...
Est-ce qu'ils reviennent ?
Alors,
ouais.
Airbus, je veux dire...
Parce que ça
nous,
vous a déplu, hein, l'abandon du projet IFAN. Donc ça,
ça m'a beaucoup déplu, ouais.
Il n'y a pas une revanche aussi là-dessus ?
Non, il n'y a pas de revanche du tout. Je pense que Airbus a décidé de faire directement un gros avion qu'ils appellent IFAN-X. Donc, je suis content, ils ont quand même gardé le nom IFAN.
Oui.
Mais non, il n'y a pas de revanche du tout. Je pense que moi, j'avais fait une feuille de route qui correspondait à un certain... À l'époque, quand j'étais le patron de la technologie chez Airbus, ils ont décidé d'aller déjà vers le 100 places. Moi, je pense qu'il faut faire l'évolution, la révolution par l'évolution. Et donc, pour moi, aujourd'hui, un 9 places, ça me va très bien. Et voilà, quoi. Hein.
On a parlé du 24 mars.
Ouais.
Mais plus près de nous, il y a un premier test.
Oui, bah, c'est la semaine prochaine, quoi. Hein. C'est la semaine prochaine. On est déjà obligé. Alors, vous savez, ça, c'est quand même un gros projet. Cet avion-là, le prototype que vous allez voir voler, c'est quand même 5 millions d'euros d'investissement. C'est pas rien.
Où est-ce qu'il va voler?
Alors, il va voler à Royan. Il va voler à Royan. Et donc, après, il va y avoir une étape le 24 mars. Après, le 2 avril, il va être découvert, on va le découvrir au public à Bordeaux. Voilà, Et ensuite, alors, on aura l'avion définitif dans sa version définitive, qui sera fin mai. Et fin mai, on va faire un truc que je vous raconterai plus tard.
Non, oh, suspense encore.
Et la commercialisation dans deux ans.
La commercialisation, alors, si la certification 2022, hein. se passe bien, parce que la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, nous aide énormément. Hein. Là-dessus, ils ont été avec nous tout le long. Si la certification se passe bien, on devrait être capable de certifier vers 2000, fin 2021 pour un début de commercialisation fin 2022 et production 2023. Et on est les seuls, alors c'est ça j'y tiens à vous le dire, la concurrence, elle est chinoise et elle est américaine. Et il n'y a pas de français, il y a un créneau pour nous là qu'il faut prendre, il faut le prendre avec une nouvelle technologie. Ça c'est important pour nous, il faut qu'on se place en tant que Made in France.
Message pour la BPI.
Ouais, c'est pour ça que vous avez le trophée de l'avenir aujourd'hui, parce que vous êtes en train d'écrire l'avenir.
J'espère bien. Et merci à vous tous. Merci à vous tous. Et j'espère que vous aimerez tous l'avion qu'on est en train de créer pour vous pour demain.
On reste ensemble et on va découvrir le dernier lauréat de ces trophées de l'avenir européen.
Il est 13h47.
Europe 1.
Et ce dernier lauréat, eh bien, c'est le vôtre, celui du public, le coup de cœur des auditeurs d'Europe 1. Suspense, à tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h, émission spéciale aujourd'hui en public, en direct du studio Merlin. Europe 1 vous a fait vivre une très belle soirée hier, les trophées Europe 1 de l'avenir avec des entrepreneurs, plein d'idées, de belles initiatives. Et il est temps de découvrir maintenant, Raphaël Duchemin, le prix du public des auditeurs d'Europe 1.
Oui, le prix du public, ce prix du public, c'est le vôtre, hein, c'est vous. Vous avez été 10 000 à voter pour le lauréat de ce coup de cœur des auditeurs d'Europe 1. Coup de cœur remis, évidemment, par vous, Alexandre Mars, président du jury hier soir, et par Constance Binquet, vice-présidente d'Europe 1.
Le gagnant est l'association Les Papillons. Laurent Boyer.
Bravo. Que d'émotion hier soir. Laurent Boyer qui est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Laurent, on est touché en fait. On a été touché dès hier soir et même avant par votre histoire et par l'histoire de l'association Les Papillons. Parce que c'est votre histoire personnelle en fait que vous avez tenté de rendre positive en créant l'association Les Papillons. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est Les Papillons ?
Les papillons, en fait, c'est ce qu'on est tous et tous quand on a été victime. On est des chrysalides enfermés dans nos silences, enfermés dans nos hontes, dans nos culpabilités. Et on espère tous et toutes pouvoir un jour devenir des papillons. Le problème, c'est que ça reste bloqué. On reste emprisonné dans nos chrysalides parce qu'on n'arrive pas à parler. On n'arrive pas à extérioriser, à s'entendre dire le mal qu'on nous a fait. Et c'est en fait grâce à une victime que je veux saluer, Tini, qui est née cette idée des boîtes aux lettres papillons, de se dire, voilà, nos agresseurs nous impose le silence et ça fonctionne. Moi-même, j'ai été victime de l'âge de 6 ans à l'âge de 9 ans et j'ai gardé le silence pendant plus de 30 ans parce que nos agresseurs nous interdisent de parler. En revanche, ce que nos agresseurs ne nous interdisent pas, c'est d'écrire. Et l'idée des boîtes aux lettres papillons, elle est née de ça. Elle est née de nous rapprocher des enfants, de nous mettre à la hauteur des enfants et de leur offrir l'outil des boîtes aux lettres papillons pour, lorsqu'ils seront prêts, lorsqu'ils en auront besoin, nous envoyer un petit message.
Alors ces boîtes aux lettres, vous voulez les mettre dans les écoles, là où se trouvent les enfants ?
Oui, les boîtes aux lettres, on veut les mettre dans les écoles primaires, dans les collèges, parce que le principe, c'est que les enfants nous écrivent un mot ou alors un dessin, mais surtout, le principe, c'est qu'ils signent qu'ils nous disent qui ils sont pour qu'on puisse les aider. Donc le but, c'est de faire en sorte que le plus vite possible, ils puissent les trouver en école primaire. Et on sait que le harcèlement scolaire, c'est 700 000 enfants par an qui sont victimes de harcèlement scolaire. Ça commence en primaire, ça continue au collège. Donc le but pour nous, c'est d'être présent tout au long de cette scolarité.
Alexandre.
Oui, les mots me manquent. Hier soir, je crois que la moitié de la salle avait les larmes aux yeux quand tu as parlé de ton propre cas. Et c'est vrai que tu disais une chose très juste hier soir. Tu disais, je suis bancal. Et je pense que ça parle, en tout cas, moi, ça me parle, parce que moi aussi, je suis bancal à ma façon. Et je pense que tous les gens qui sont autour de cette table, et les auditrices et les gens, nous sommes tous un peu bancal. Et de nouveau, c'est ça qui fait notre force aussi, et de pouvoir... l'avouer et partager ça avec le reste de l'audience pour nous hier soir était assez extraordinaire. Donc merci. De partager ça parce que cette faiblesse, c'est ta force.
Merci.
Elisabeth ?
Oui, parce qu'il faut dire qu'hier soir, Laurent a lu, il avait préparé au cas où s'il était donc lauréat, il a lu cette lettre qu'il n'a jamais pu écrire, lui. Qu'il aurait mis dans cette boîte aux lettres quand il avait l'âge de... C'était 7 ans, quand vous aviez 7 ans, c'est ça, Laurent ?
J'étais victime entre 6 ans et 9 ans et j'ai lu cette petit mot comme si je l'avais écrit le 27 janvier 1980, c'est-à-dire à quelques mois de la fin de mon calvaire, là où, à l'intérieur de moi, je hurlais et j'en pouvais plus.
La fin de votre calvaire, parce qu'il faut le dire, c'est votre frère hein, qui vous a...
Oui, j'ai été violée par mon frère,
pendant toutes ces années.
Pendant 3 ans.
Et nous, on se demandait, mais que devient-il ? Il est où ? Que dit-il par rapport à votre résilience ?
Je ne sais pas ce qu'il dit, puisque comme 70% des victimes qui libèrent leur parole, notamment auprès de leur famille, ma famille m'a exclu en disant que je ne faisais plus partie de la famille. Et j'ai préféré vite leur dire que non, c'était moi qui les excluais et qui allais me construire ma propre famille. Donc voilà, moi, quand j'ai libéré ma parole, c'était forcément à un moment où la prescription n'était pas encore de 30 ans. Donc il y avait le délai de la prescription qui était passé et je n'ai pas pu déposer plainte. Et c'est en fait le but des boîtes aux lettres papillons, c'est de régler une fois pour toutes ce problème de prescription, permettre aux enfants de libérer leur parole le plus vite possible pour les accompagner ensuite.
Il y a deux choses importantes, Laurent. Ces boîtes aux lettres, vous aimeriez les installer. Il y a certaines villes qui vous ont dit banco, on joue le jeu, on va les mettre dans les écoles. Il y en a d'autres qui sont un peu plus réticentes parce que l'éducation nationale, les académies notamment, freinent un peu des quatre fers.
Oui, et ça pour moi, c'est une grosse interrogation, une grosse perplexité au moment où, notamment à la rentrée scolaire de cette année, le ministre de l'Éducation nationale a fait de la lutte contre les violences intrascolaires sa priorité. Ma difficulté, c'est l'incompréhension devant les académies, les inspections d'académies qui nous disent « oui, mais si jamais il y a du harcèlement, ça voudra dire qu'on a mal fait notre travail ». Moi, je suis très agacé de me rendre compte qu'en fait, on est face à des personnes qui pensent plus à se protéger elles-mêmes plutôt qu'à protéger nos enfants. Et on a d'un côté une poussée de toutes les directrices et directeurs d'école qui sont contactés par nos référents, qui veulent ces boîtes aux lettres, et de l'autre côté, inspection d'académie qui, elles, sont frileuses. Mais ça va venir. D'ici quelques jours, on va signer une convention avec une école dans le Var. On a signé une convention avec une école dans le 44. Ça va venir.
Laurent, qu'est-ce que justement, quand tu as ces centaines de milliers de personnes qui t'écoutent en ce moment, de quoi tu as besoin de lancer une pétition, le fait qu'ils te contactent toi. Comment c'est possible, même si c'est pour changer la vie d'un enfant, il y a autant de réticence. De quoi tu as besoin?
Alors, j'ai besoin effectivement que les gens nous rejoignent, que les gens nous appuient, que les gens poussent notre projet. Et puis j'ai besoin aussi que les gens, parce que nous on est une association, j'ai entendu des superbes projets qui avaient besoin de fonds pour pouvoir avancer. Ben nous aussi, nous, on est en ce moment dans un virage de notre association. On est appelé en Belgique, on est appelé au Luxembourg. On demande vraiment. Et le virage pour nous, c'est de pouvoir salarier quelqu'un parce que ça prend beaucoup trop de temps. Donc voilà, j'appelle les gens qui nous écoutent à aller sur le site des papillons, www.associationlespapillons.org, et de faire des dons parce qu'on a vraiment besoin de faire ce virage. Mais ce virage, ce n'est pas pour nous qu'on veut le faire. C'est vraiment pour les enfants. Et si demain, je n'ai pas quelqu'un qui peut travailler à plein temps pour l'association, pour gérer les statistiques, que le secrétariat d'État à la protection de l'enfance, qui nous soutient, je tiens à le dire, Adrien Taquet, et quelqu'un qui m'a reçu à plusieurs reprises, qui soutient notre projet et qui veut et qui est en train de faire un courrier pour nous aider à l'expérimenter. Voilà, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, il faut qu'on avance correctement.
Laurent, une fois qu'on a mis la lettre dans la boîte, qu'est-ce qui se passe ? Qui la reçoit et comment viennent les réponses ?
Alors, une fois qu'on a mis la lettre, c'est le référent de l'association qui a l'obligation, quand ils s'engagent auprès de nous, l'obligation qu'ils ont, c'est d'aller tous les jours voir s'il y a du courrier. Et quand il y a du courrier, ils nous le transmettent par mail au bureau de l'association. Et ensuite, à ce moment-là, de deux choses l'une, soit le courrier fait état d'un danger grave et immédiat, alors on fera une saisine auprès du 119 qui gère justement tous ces signalements, ou bien le courrier fait état de quelque chose qui est en train d'apparaître ou d'un mal-être d'un enfant qui ne nécessite pas forcément la saisine des autorités judiciaires, alors on se retourne vers le référent du secteur en lui demandant de prendre contact avec les associations qui existent déjà en local ou alors avec les infirmières scolaires pour accompagner l'enfant. Il y aura toujours une réponse pour les enfants.
La clé de la boîte aux lettres, c'est seulement...
C'est seulement les référents.
Les référents.
Tout à fait.
L'association Les Papillons, qui était donc votre choix, le coup de cœur des auditeurs d'Europe 1. Merci à vous de l'avoir suivi. 10 000 personnes qui ont voté, Laurent, c'est important. Bravo à tous les lauréats. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir joué le jeu, d'être tous venus hier soir à cette magnifique cérémonie et de nous avoir rejoints aujourd'hui dans les studios d'Europe 1, ici en public, dans le studio Merlin. Merci à notre président du jury et coach aujourd'hui, Alexandre Mars. C'est un homme qui ose, Anissa.
Oui, effectivement, c'est le titre de votre dernier livre, Alexandre Mars. Vous êtes un entrepreneur à succès et vous nous dévoilez les clés de la réussite dans ce livre Ose. Il y a des témoignages, des conseils, des astuces. C'est un guide à destination de tous ceux qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre. C'est paru aux éditions Flammarion et Versilio.
Merci Alexandre.
Merci à vous.
Merci Alexandre.
Et si je peux juste parler d'entrepreneuriat, ce qui est exceptionnel dans les entrepreneurs que nous avons célébrés hier soir et encore aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément cet entrepreneuriat de la France d'aujourd'hui. Peut-être qu'on parle beaucoup de start-up nation, il faut lever des fortunes et puis partir dans tous les pays du monde. Ben non, ça peut être aussi local, régional. Ça peut pas forcément être 20 ans, on peut avoir 50 ans et se lancer. C'est beau cette France-là et c'est ce qui nous passionne au quotidien. Et merci encore à vous, Raphaël et ton équipe, Elisabeth et toutes les équipes.
Merci Alexandre de nous faire confiance chaque année, puisque vous étiez une nouvelle fois président de ce jury. Elisabeth, on se donne rendez-vous dès demain
midi. On continue à les découvrir
sur Europe 1 pour faire bouger la France.